Bienvenue dans ma bibliothèque. Aujourd'hui, il sera question du vol de la Joconde, d'un père mystérieux et d'une jetée en spirale. Je vous présente, comme un ciel en nous, un essai de Yakuta Lekavazovitch paru en 2021 chez Stock dans la collection Ma nuit au musée. Ce livre a obtenu le prix Médicis cette année-là dans la catégorie essai. Yakuta Lekavazovitch a également écrit plusieurs romans, comme par exemple Corps volatile, qui avait obtenu le prix Goncourt du premier roman en 2007. Ce n'est pas la première fois que je chronique ici un essai de la collection Ma nuit au musée. Je vous rappelle le principe, il s'agit pour les auteurs et les autrices qui participent à cette collection de relever le défi suivant, passer une nuit dans un musée. Et c'est sa nuit au musée du Louvre que Yakuta Lekavazovitch évoque dans « Comme un ciel en nous ». Alors avec le Louvre, tout de suite, on a l'image d'une abondance, d'une plénitude, d'un musée empli d'œuvres extrêmement célèbres, mais aussi d'un lieu chargé de fantasmes, de fiction, puisque bien c'est un lieu de tournage, un sujet même de film. Et c'est donc un comble que « Comme un ciel en nous » s'ouvre sur un rêve de soustraction dans cette plénitude, puisque le père de l'autrice avait l'habitude, en l'emmenant au musée du Louvre, de lui poser la question que vous allez découvrir dans cet extrait. « Je souhaite écrire un livre sur le Louvre », disais-je lors de ces entretiens qui étaient, ou pas, des auditions. « Je souhaite écrire un livre sur le Louvre et ma famille, sur le Louvre et sur mon père. » Et tout le monde trouvait l'idée excellente, honorable. Mais les lieux ou les œuvres qui s'y trouvent perçoivent des choses qui nous échappent à nous. Ni les responsables de la sécurité, ni le conservateur, ni même la directrice de collection qui, à chaque étape, m'épaulait, soutenait mon choix et ma démarche, ne le savait alors. Je suis la fille d'un homme qui, à chacune de mes visites au musée, me demandait combien j'avais vu d'animaux peints et de levées de soleil, combien j'avais vu de navires et de clairs de lune, combien j'avais vu de fenêtres, combien d'escaliers, combien de gardiens et de caméras, et combien d'issues de secours? Et combien d'extincteurs? Non, aucun d'entre eux ne savait que je suis la fille d'un homme qui, à chacune de nos visites, me demandait « Et toi, comment t'y prendrais-tu pour voler la Joconde ?» Il se trouve que la Joconde a vraiment été volée en 1911, ce que j'ai appris dans ce livre, et qu'elle a même disparu pendant 2 années entières. Le jeu du père a donc un lien avec la réalité, et ce jeu autour du vol de la Joconde était fréquent, parce que le musée du Louvre était très familier au père qui emmenait sans cesse sa fille depuis son plus jeune âge, au point qu'il lui brossait même les dents au Louvre. C'est donc un espace de transmission. Le père en profitait pour raconter l'histoire de l'art, l'histoire des œuvres à sa fille Yakuta, ce qui lui était d'autant plus aisé qu'il était doté d'une mémoire absolument hors norme. Jeune homme fraîchement arrivé en France, il a abandonné ses études d'économie comme on jette un mégot par la fenêtre, sans réfléchir, et avec une certaine volupté, pour s'inscrire en architecture et aux beaux-arts. Ses professeurs étaient admiratifs de sa mémoire, qu'il devait aussi craindre un peu. En apparence, mon père s'est vite acclimaté à la vie capitale qu'il avait décidé de mener, décidé de créer de toutes pièces à Paris. Il était bel homme et charmant. Le charme était son moyen de survie, le charme était la forme que savait prendre son intelligence, son obstination à vivre la vie dont il rêvait, lui qui ne possédait rien. Rien que son charme, rien que cette mémoire, il pouvait compter de tête les colonnes du Panthéon, dont le nombre demeurait à froid inconnu même de ceux qui avaient grandi dans leur ombre. Les colonnes du Panthéon et d'autres choses aussi, les arcades du Louvre, les cils de Marat dans le tableau de David, ceux de la Joconde. Le Louvre devient donc en apparence le symbole même de la transmission culturelle. Je dis en apparence seulement, parce que derrière cette mémoire extraordinaire des œuvres se cache aussi paradoxalement l'occultation de l'histoire personnelle et familiale. Le père de Yakuta Lekavazovitch vient du Monténégro, d'une région de Yougoslavie, un pays aujourd'hui disparu. Il était arrivé en France pour rejoindre la mère de Yakuta, mais aussi, d'après la légende familiale, pour le Louvre. Le père est un homme plein de mystères, même sa date de naissance n'est sans doute pas la bonne. Et puis, que faisait-il lorsqu'il laissait sa fille parfois seule au Louvre pendant des heures? Une absence temporaire, le père revient, mais une absence suffisamment marquante pour que sa fille se demande où elle glisserait pour lui un mot au cas où il disparaîtrait à nouveau. Et pour combler le manque du père, apparaît tout à coup un creux étonnant, un creux dans la célèbre statue de la Vénus de Milo. Peu de gens le savent, mais il y a dans la Vénus de Milo un compartiment secret. Au cœur de la sculpture la plus connue du monde, ne se trouve pas une pierre dense d'où, selon le cliché, la figure attendait de jaillir. Au cœur de la sculpture la plus connue du monde, il y a un vide. Sous le sein droit, un bouchage, duquel un restaurateur a extrait en 2009 ou 2010 un papier roulé très serré sur lequel on lisait, au crayon, « Restauré le 5 avril 1936 par Libo, Marbrier, Louvre. » Si un jour mon père devait me dire « Je reviens » et ne pas revenir, si je devais un jour lui laisser un mot car sur mes jambes, sur mes épaules et sur mon visage, la lumière monte, monte, puis d'un coup disparaît. C'est là, sans nul doute, que je le glisserai. Yakuta Likavazovic comble d'une certaine manière les blancs laissés par le père en rappelant les ravages de la guerre de Yougoslavie dans sa propre famille. Mais alors vous me direz qu'on est loin hein, des œuvres du musée du Louvre, loin de la Joconde. Oui, en apparence, là encore. En fait, l'autrice, en rapprochant sa famille de cette Joconde si protégée, fait surgir une vérité insupportable. La Joconde, lorsqu'elle était prêtée en 1963 aux États-Unis, a bénéficié en effet d'une garde rapprochée, hein, d'une vitrine par balles très épaisse. Alors que dans les années 90, eh bien rien pour arrêter la mort et la destruction dans la ville de la famille de l'autrice, Sarajevo. Que peut la permanence d'une œuvre d'art contre le scandale de la destruction et de la mort des hommes ? L'autrice évoque alors une autre œuvre, une œuvre de Land Art cette fois, hein, qui se trouve donc par définition hors de tout musée. Il s'agit de la Spiral Jetty, ou jetée en spirale. C'est une œuvre réalisée par le sculpteur américain Robert Smithson au bord du Grand Lac Salé aux États-Unis. L'autrice, qui avait fait le trajet jeune fille pour contempler cette œuvre, évoque son caractère insaisissable. « Vous pouvez vous tenir dessus, mais vous ne pouvez pas l'embrasser du regard. En cela, elle est comme la vie, comme votre vie. Insaisissable au moment où elle est vécue, passée déjà au moment où elle se laisse saisir. » 20 ans plus tard, vos cheveux sont d'une couleur naturelle et vous avez déplié un sac de couchage dans ce qui est peut-être le plus célèbre musée du monde pour dormir avec ce qui est peut-être la sculpture la plus célèbre du monde. Vous savez que vos tours et détours n'ont été qu'une spirale qui a fini par vous ramener ici, au centre de votre enfance ou au centre de vous-même. Mais vous êtes la fille de votre père et le temps n'existe pas. Cette image vertigineuse et fascinante de la spirale court à travers le livre. Yakuta Likavazovic a d'ailleurs déclaré le 6 avril 2023, lors d'une rencontre au Grand Air, scène nationale de La Roche-sur-Yon, « La spirale est le cœur secret du livre, il y a une spirale en son cœur. » La spirale, c'est cette forme qui retourne en apparence, au même point, tout en s'en éloignant. L'énumération des moyens de subtilisation du tableau le plus célèbre du monde semblait ainsi créer une litanie fantaisiste en apparence répétitive. Avec des explosifs, avec une machine volante, j'avais feuilleté l'une de ces biographies de Léonard de Vinci, avec un ptérodactyle. Ainsi en spirale progressant de l'idée la plus commune à la plus folle. Et toi, comment t'y prendrais-tu pour voler la Joconde ? La question et ses réponses rythmaient l'après-midi, rythmaient la promenade, le jour tombait, et dans la lumière déclinante, nous revenions peu à peu sur nos pas, et les scénarios les plus fous refluaient eux aussi, et nous retournions au point de départ, avec des fumigènes, avec un couteau. Même si, bien sûr, ce n'était pas exactement le point de départ, car quelque chose avait eu lieu entre-temps. Et ce qui avait eu lieu, c'était la rêverie, c'était la tendresse, et c'était le temps. La rêverie, la tendresse, le temps. Je trouve que ces trois mots incarnent parfaitement la nuit au musée du Louvre avec Yakuta Likavazovic. Et le Louvre ne s'en sort pas indemne. Ce n'est pas dans ce musée un vol qu'elle opère, non. Pas une soustraction, mais une addition. Malicieusement, l'autrice affirme avoir laissé un objet au Louvre, un objet qu'elle avait emporté dans son sac. Un objet qui restera secret. On peut bien sûr poursuivre le jeu de Yakuta et de son père en le modifiant un peu. Et toi, comment t'y prendrais-tu pour introduire un objet au Louvre ? Alors moi, en tout cas, je sais ce qui se trouve en plus au musée du Louvre depuis que j'ai fermé ce livre. Une petite fille qui attend son père tandis que le jour décline. Un pan de mur nu à la place de la Joconde. un creux dans la Vénus de Milo, une ville d'un pays qui n'existe plus, des questions en forme de spirale, et le temps changeant de l'amour comme un ciel en nous. Je vous conseille donc cet essai de Yakutali Kavazovic, Comme un ciel en nous, paru en 2021 chez Stock, dans la collection Manu au musée. Et puis vous pouvez retrouver cette chronique sur urban-radio.com.